Radio. Radio, radio.
Would you like a cup of coffee?
That's the most stupid thing I ever heard of.
I promise.
Je professeur, vous dites merde.
We're going to have lots of happy times together.
Clap. Le cinéma qui s'écoute.
Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur Clap, l'émission du cinéma qui s'écoute. Pour ceux qui connaisseraient déjà Clap, on a une petite annonce à faire d'entrée de jeu. C'est que Clap change de formule. Nous allons passer cette année à deux émissions par mois au lieu d'une émission par mois comme vous aviez l'habitude, fidèles auditeurs et auditrices. Nous allons donc passer à deux émissions par mois, des émissions de 30 minutes et nous aurons un thème par trimestre, donc un thème pour 3 mois qu'on essaiera d'aborder en profondeur avec nos 6 émissions. Vous faites les maths et vous allez vous rendre compte de combien il y a d'émissions par sujet. Voilà. C'est très, très confus ce que je dis, mais en même temps c'est très confus cette nouvelle formule. Bon, en gros, un sujet par trimestre, 6 émissions pour ce sujet-là. Et voilà. Et du coup, dans les 3 prochains mois, donc pour novembre, décembre et janvier, le sujet qu'on va aborder, c'est le sujet du court-métrage. C'est un sujet un petit peu large, mais c'est un sujet que Kaleidos, qui est l'association qui réalise cette émission, Kaleidos Film, c'est un sujet qu'on aime bien parce que l'association fait de la diffusion de courts-métrages en soirée, qu'on est plusieurs à réaliser des courts-métrages et tout ça. Donc voilà, donc c'est un sujet qui nous intéresse, donc on va en parler avec vous pendant 3 mois. Les 2 premières émissions, donc les 2 émissions de novembre, parleront de l'écriture du court-métrage. Les 2 émissions de décembre parleront de l'économie du court-métrage avec la production, les festivals et voilà, comment on fait sortir le film qu'on a fait et comment on le fait voir au monde. Et les 2 dernières émissions, donc les émissions de janvier, seront plus sur le court-métrage comme moyen alternatif de faire des films, comme un lieu d'expérimentation et voilà, et la liberté que peut avoir le court-métrage par rapport au long ou au circuit classique de distribution, de production, de diffusion. Voilà, ce sera un peu notre émission et comment on peut s'amuser avec le court-métrage. Voilà. Avant de commencer tout ça, je vais dire bonjour à tout le monde qui est sur le plateau parce que je présente cette émission avec Marie. Bonjour Marie.
Bonjour Boubou.
Je présente aussi avec Hugo. Bonjour Hugo.
Bonjour.
Et nous allons discuter de tout ça avec Antoine. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Et en fin d'émission, vous aurez votre petite chronique cinéphilique de Jojo avec Jojo. Coucou Jojo.
Coucou.
Voilà. Et avant de partir du coup sur le thème du court-métrage, Hugo va vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est le court-métrage, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on entend par court-métrage.
Alors, le court-métrage, qu'est-ce que c'est ? J'ai fait un grand exposé, un mémoire même, qui m'a pris des années, pour vous donner cette définition. Donc, le court-métrage, c'est un film qui n'excède pas 1600 mètres de pellicule en 35 mm. Voilà. C'est la définition officielle du CNC, parce qu'en fait, on a tous du mal à définir le court-métrage. C'est-à-dire qu'en fait, on dit que c'est un film qui ne dépasse pas 1 heure, et c'est tout. Après, il y a plein de définitions subsidiaires à ça. On parle de moyen-métrage pour des films de plus de 30 minutes. On parle de très court-métrage pour des films de moins de 3 minutes. Certains festivals de court-métrage n'acceptent pas des films de plus de 3 minutes ou sont spécialisés dans le très court. Mais de manière générale, la définition du court-métrage, c'est un film de moins d'une heure. Alors, je voulais en profiter pour faire une petite page d'histoire du court-métrage. Qui en fait a été, en France surtout, qui a été un peu officialisé, enfin qui est rentré, qui s'est, comment on dit, ah je trouve plus mes mots, qui s'est institutionnalisé peut-être en 1940 avec une loi qui oblige les cinémas, les salles classiques à diffuser du court-métrage avant les films et à partager, enfin à donner un pourcentage, 3% des recettes de la projection au court-métrage. Donc ça a lancé une dynamique de création de court-métrage, ça a lancé des productions aussi, mais ça n'a pas duré très longtemps parce qu'en 1953, cette loi a été abrogée, ce qui a fait l'effet d'une douche froide dans le milieu du court-métrage et qui a donné lieu à la création du groupe des 30, qui était un groupe de sûrement 30 à la base, je suppose, réalisateurs de courts-métrages, et qui s'est créé pour le défendre et essayer de continuer à le faire vivre malgré le fait que les salles arrêtent petit à petit d'en diffuser. Ça a donné en 1955 les premières journées internationales du film de court-métrage à Tours, qui était la première manifestation exclusivement dédiée au court-métrage, en France en tout cas, je ne sais pas pour le reste du monde. Et en 1982, s'est créé le Festival international de court-métrage de Clermont-Ferrand, que beaucoup de gens qui connaissent le court-métrage doivent connaître, et qui est devenu un peu une référence en la matière. Depuis, de nombreux festivals se sont lancés et le court-métrage vit principalement par sa diffusion lors des festivals. En parallèle de ça, il y a aussi une diffusion qui est faite à la télé et qui prend de l'essor aussi, mine de rien, petit à petit, surtout avec l'avènement des différentes chaînes de télé et des chaînes qui sont dédiées à ce format-là ou qui offrent des plages plus importantes de diffusion. Et c'est aussi un format qui devient de plus en plus diffusé sur Internet, avec toutes les problématiques que ça comporte, dont on aura sûrement l'occasion d'en parler à un moment donné dans l'émission. Voilà. Dans ce que je voulais dire aussi, c'est que le court-métrage, c'est un format qui est par essence plus facile à produire qu'un long-métrage, parce qu'il est plus court, parce qu'il demande moins de moyens, et qui sert du coup de tremplin pour beaucoup de jeunes réalisateurs qui veulent à terme produire du long et qui utilisent le court pour se faire connaître à des producteurs ou à un public et permettre d'avoir les moyens et le réseau de continuer plus loin. Mais c'est aussi une forme en soi qui vit en elle-même et avec des réalisateurs qui peuvent se spécialiser dans cette forme-là. C'est du coup aussi un format où il y a des nombreux films qui sont autoproduits, expérimentaux, avec très peu de budget, et qui laissent une place à la créativité et à la... Enfin, une liberté, en tout cas, de ton beaucoup plus importante que dans le long-métrage, parce que ils ne sont pas bloqués par des questionnements économiques, ce qui crée des films différents, qui changent un petit peu, qui testent de nouvelles choses, et aussi qui créent des films de merde, parce que c'est l'idée, et c'est un art qui se teste. C'est le principe du court-métrage. Et c'est aussi le format privilégié des écoles de cinéma, pour les mêmes raisons qu'évoquées avant, et de nombreux exercices, de nombreux tests d'écoles de cinéma se passent par la réalisation de court-métrages ou le travail à l'intérieur d'un court-métrage. Pour finir, petite statistique du rapport du CNC de 2015 sur le marché du court-métrage. Le court-métrage en France, c'est 3,5 millions de spectateurs en salle en 2015, donc 2500 films présentés, plusieurs centaines de films à la télé, j'ai pas les détails exactement. Et dans tous ces films-là, il y a eu 66% de fiction, 18,5% d'animation qui prend une part de plus en plus importante dans le court-métrage. 11% de doc et 4,5% de films expérimentaux. Et en moyenne, pour les courts-métrages produits, le prix de production est de 86 000 euros, dont la moitié de financement public, CNC, région et autres, et le reste d'apport des producteurs et de préachat de télé ou de dons privés. Voilà.
D'accord.
Ça vous plaît comme réflexion sur le court-métrage? Vous êtes content d'avoir...
Personnellement, ça m'a beaucoup plu. Merci beaucoup, Hugo.
Merci, Hugo.
Voilà, on sait un petit peu plus de quoi on parle quand on parle de court-métrage, en tout cas pour le côté définition, économie et tout ça. On va tout ce que tu as évoqué, Hugo, on va essayer de l'évoquer un peu en détail au fil des 6 prochaines émissions. Et du coup, là, pour ces deux émissions-là, on va parler de l'écriture du court-métrage. Et on va en parler avec Antoine. Et du coup, peut-être Antoine, tu peux te présenter un petit peu, te nous dire un petit peu qui tu es et quel est ton parcours, comment tu en es venu à faire du court-métrage.
Alors, moi, je suis sorti de l'ENSAV à Toulouse il y a 2 ans maintenant. Et du coup, le fait de faire des courts-métrages, c'est pas un choix vraiment au départ. C'est un peu un moyen de s'entraîner, de tester des choses, et au niveau de l'écriture et la réalisation, en tout cas. Et voilà. C'est vrai que comme beaucoup, j'ai l'impression, j'ai plutôt envie d'écrire des longs dès le départ, en fait, quoi. Et c'est vrai que j'avais peur de me retrouver un peu bloqué au niveau du développement des personnages, des choses comme ça, sur un court-métrage où on doit présenter les personnages très rapidement, mettre la situation aussi dès le départ du film. Et le risque que je trouve qu'il y a dans le court-métrage, c'est de faire un peu des films sketch, un peu, avec juste une chute à la fin, et voilà. Donc dans ce que j'écris, j'essaye de sortir un peu de ce cliché-là, quoi. Et voilà. Après, moi, je suis un peu... Enfin, j'ai envie de vraiment d'être un peu diversifié, dans le sens où... J'ai écrit documentaires, des fictions courts-métrages, fictions longs-métrages, et après, je fais aussi des petits films expérimentaux, des petits montages, des choses comme ça et tout. Donc voilà.
Ok.
Est-ce que, par exemple, tu pourrais nous parler de l'écriture d'un court-métrage documentaire ?
Alors, ça, c'est compliqué. J'ai l'impression que tout le monde a un peu son avis là-dessus et il n'y a pas vraiment de règles. Contrairement à la fiction, on me demande de vraiment d'écrire. Enfin, c'est très, très. Très cadré, très normé pour la fiction. Pour le documentaire, on ne sait pas trop, quoi. Enfin, moi, je ne sais pas trop. Et personne ne sait vraiment, j'ai l'impression. C'est un peu, il y en a qui disent par exemple qu'il faut tout écrire comme une fiction, juste pour montrer un petit peu l'ambiance, écrire le film tel qu'on a envie qu'il soit à la fin, sachant que tout le monde sait qu'il sera jamais comme ça, parce qu'un documentaire à la base, voilà, c'est partir sur des choses qu'on ne connaît pas spécialement et être prêt à accueillir tous les imprévus. Sachant que ça, c'est un peu difficile, en fait, surtout si c'est un sujet qu'on ne connaît pas spécialement et qu'on a justement envie de découvrir au fil du tournage. Moi, je trouve ça très difficile d'écrire quelque chose sans tomber sur des clichés ou justement... pour moi, c'est vraiment... Le documentaire, c'est vraiment une recherche réflexive, de questionnement. Et du coup, donner toutes ces réponses à l'écriture avant le tournage, je trouve ça vraiment problématique. Mais si on ne fait pas ça, trouver des financements, c'est vraiment très difficile. Parce que tout le monde va demander, mais qu'est-ce que vous voulez, comment le film va être et tout. Et à part donner des indications un peu floues, c'est pas évident.
Du coup, toi, t'as écrit ? T'as essayé d'écrire sur un projet ?
J'ai écrit, oui, voilà. Alors, j'ai écrit plusieurs fois. J'ai fait au moins 3 ou 4 versions d'un projet de film documentaire. D'une durée d'à peu près 1 heure, que j'ai jamais pu faire. Mais donc, ce projet, c'était... Bon, après, c'était assez compliqué, vu que c'était un court-métrage documentaire en pellicule. Dans un train.
Donc,
en gros, c'était l'idée de traverser l'Europe uniquement en train et d'aller à la rencontre des voyageurs et à travers ça faire un peu une sorte de portrait de l'Europe actuelle et de son passé par rapport à la guerre froide, la guerre Yougoslavie, la crise économique actuelle, la crise entre guillemets migratoire ou des choses comme ça. J'ai eu des contacts avec le grec, par exemple, mais qui m'ont redemandé de réécrire. J'ai réécrit, et cette fois, ça leur a pas plu, sans me donner vraiment d'indication.
Tu peux peut-être nous redire... on en a parlé dans une émission l'an dernier, mais peut-être tu peux nous présenter un peu le grec.
Le grec, en fait, c'est un organisme privé, je crois.
En tout cas,
c'est essentiellement avec des financements publics, comme beaucoup d'associations ou de groupes comme ça, qui financent des premiers ou des deuxièmes films avec un budget assez serré. Je crois que c'est 18 000 euros maximum. Donc sachant que ça permet de financer un film, mais de pas du tout payer l'équipe technique, quoi. Donc voilà. Mais c'est aussi un moyen, c'est un peu un tremplin, parce que par le grec... Si on a tourné un film avec le grec, on a plus de possibilités d'avoir des contacts avec des producteurs, des choses comme ça et tout, quoi. En gros. Voilà. Bon, du coup, ce projet documentaire n'a pas abouti. Je me suis posé beaucoup de questions par rapport au film documentaire. Et justement, par rapport à l'écriture, comment faire et tout, quoi. Et ça me trouble vraiment. Du coup, je me suis mis vraiment plus à la fiction. Sachant que j'ai vraiment envie de me remettre au documentaire, mais après il y a d'autres questions par rapport au documentaire sur la place que je peux avoir par rapport aux gens que je vais voir, Il y a aussi l'intime, comment... je sais pas, venir voir des gens pour les filmer. Et enfin voilà, ils vont te raconter ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils vivent, par exemple. Et comment retransmettre ça dans un film sans dénaturer leurs propos, sans les utiliser non plus. Enfin voilà, c'est plein de questions qui me...
Donc pour l'instant, toi, tu préfères... Enfin, en tout cas, tu te sens plus à l'aise pour l'instant dans de l'écriture de fiction parce que, quoi, parce que du coup, c'est plus cadré. Enfin, c'est un genre où c'est plus logique de l'écrire avant de le réaliser. Voilà. Ou c'est quoi qui te plaît plus, du coup, dans ce process?
Ce qui me plaît, c'est qu'il y a un côté rassurant de... Voilà, il y a l'écriture et après, il y a le tournage. Et ça limite les imprévus et... Oui, il y a ce côté rassurant de on sait clairement où on va. Quoi.
Et est-ce qu'en termes de format, c'est pas compliqué d'écrire un documentaire court-métrage, du coup, en sachant que tu dois te limiter à une certaine durée par rapport à une fiction? Dans le sens où, comme une fiction, tu écris, tu peux écrire un film pour une durée en prévoyant le fait que ça va modifier ton histoire. Il faut que ce soit soit un film à chute, soit que l'histoire se développe pas trop, et où il y a des histoires qui ne marchent qu'en court-métrage, qui seraient trop longues, pas intéressantes à passer sur du long-métrage. Est-ce qu'il y a des sujets de documentaire qui se prêtent du coup aussi uniquement au court-métrage ou pas? Enfin, je me pose la question là-dessus, en fait, sur les questions de format, de durée. De se limiter à ces cases-là.
Je sais pas. Après, ça dépend de ce qu'on appelle documentaire aussi.
C'est ça, ouais.
Ça peut aller du reportage style télévisuel au documentaire de création, au film poétique, aux essais filmiques. Enfin voilà. Après, dans le documentaire, on classe tout ce qui n'est pas fiction, souvent. Enfin, en tout cas, pour les subventions par rapport au CNC. Du coup, c'est un peu un fourre-tout. On ne sait pas trop. Après, pour moi, du coup, la différence vraiment entre la fiction et le documentaire, c'est vraiment... c'est peut-être pour moi une différence technique plus que, qu'une différence vraiment de film en soi, quoi. Pour moi, c'est vraiment... Voilà, j'ai l'impression... Je crois que j'ai envie de faire des films de fiction, enfin, en ce moment en tout cas, mais filmés de façon documentaire, c'est-à-dire avec une équipe assez réduite. Et en même temps, laisser la place quand même à l'imprévu et à l'improvisation, des choses comme ça.
Prendre l'écriture de la fiction, mais la réalisation du documentaire. Quoi.
Voilà, c'est un peu
combiner un petit peu les deux qui te plaisent.
C'est ça, ouais.
Mais comment t'écris ça, du coup? Tu laisses un texte à trous pour tes acteurs?
Ça dépend. Si c'est pour des demandes de financement, je vais tout écrire de façon très classique, avec... intérieur, nuit, machin et tout, description uniquement visuelle ou sonore, et puis l'écriture des dialogues. Sachant que pendant le tournage, je sais très bien que ça ne va pas être exactement comme ça et que je vais laisser plus ou moins libre, ça dépend du jeu, ça dépend du film aussi. Mais bon, laisser vraiment une liberté par rapport au niveau du jeu des acteurs et des actrices. Moi, ce qui me gêne, par exemple, dans la fiction, c'est le poids, en fait, de toute la technique et qui, je trouve, bloque beaucoup. Et ça, c'est dès l'écriture, je pense que ça se ressent. Mais donc, du coup, voilà, si je veux pas faire des dossiers de financement ou de choses comme ça, je vais faire une écriture beaucoup plus libre. Et laisser, voilà, je vais faire un truc beaucoup moins formel, laisser des parts d'improvisation, je vais juste expliquer, voilà, quel type de discussion ça va être, voilà, mais sans écrire exactement les dialogues.
Et pour revenir, je suppose que tout ça, par exemple, tu as été questionnement sur le documentaire, et puis après, en fait, te dire que tu veux faire des films peut-être un peu hybrides, écriture fiction, mais tournage documentaire, tout ça, c'est issu de... forcément d'une réflexion et d'avoir testé plein de choses. Et moi, ce que je me demande, c'est quand tu es formé, par exemple, dans une école comme l'ENSAV, où on est principalement formé à de l'écriture de fiction, justement, et que tu en sors et que tu te dis, bon, ok, moi je vais écrire des films, que tu commences à tester un petit peu dans ton coin, j'aimerais bien savoir ce que c'est ce que ça a été ton évolution à toi, justement. Tu vois, on voit les questions que tu t'es posées, mais est-ce que dans ton écriture, je sais pas, il y a des choses qui changent comme. Parce qu'en fait, écrire tout seul, c'est aussi apprendre à écrire tout seul, tu vois, apprendre à, ok, j'écris bien dans telle circonstance, j'ai écrit tel film,
enfin, c'est un peu flou comme question, mais quand tu sors de l'ENSAV et que tu te retrouves seul pour ces deux années-là, comment t'as géré justement ce « Ok, il faut que je vais être scénariste avant d'être réalisateur, en fait. » Et comment, comment j'apprends à être scénariste, en fait. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est très flou comme question. Donc
oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais en fait, c'est un peu du tâtonnement, sachant qu'à l'ENSAV, on n'a pas appris concrètement à écrire des films en tant que scénariste. On a pu, voilà, on nous a donné quelques indications pour, et encore quelques, pour l'écriture en tant qu'auteur-réalisateur, mais pas du tout en tant que scénariste, et pas du tout à destination de financement ou de dossier. Donc j'ai beaucoup tâtonné en fait. Au départ, c'était vraiment du feeling. Voilà, tant que j'étais étudiant et que le scénario, c'était juste vraiment un outil pratique pour le tournage, quoi. À partir du moment où j'ai voulu faire des demandes de financement, que ce soit au CNC, Région ou Grec par exemple, ou alors des aides à l'écriture ou des résidences. Là du coup c'était complètement différent, là je ne savais pas trop quoi faire, j'ai fait relire différentes versions à des gens, enfin des professeurs de l'ENSAV, à des amis. Et petit à petit, voilà, j'ai plus ou moins appris comment faire, sachant que voilà, je ne sais pas encore clairement, je ne suis pas scénariste professionnel non plus. Mais voilà, petit à petit, c'est vraiment par tâtonnement, quoi. C'est sans trop savoir où on va, et petit à petit, selon les retours, on s'améliore, et voilà. Mais bon, c'est toujours flou, en fait.
D'accord.
Ben, merci beaucoup, Antoine. C'est super court, notre nouveau format, c'est assez impressionnant. Mais Antoine sera là donc pour la prochaine émission, aussi. Et on va passer à la chronique du jour.
Oui. Oui. Parce que juste, je fais une toute petite parenthèse avant Jojo, c'est que là, cette émission, c'est un peu l'introduction à tout ce qui va suivre pour ce trimestre. Et c'est pour ça que là, voilà, on est un peu dans une discussion générale et qu'Antoine sera bien sûr là pour la prochaine émission et on continuera de parler parce que sinon, ça, c'est vrai que ça fait un peu court. Mais en vrai, c'est pour qu'on se donne l'eau à la bouche pour la prochaine émission. Voilà. Et du coup, la chronique cinéphilique du Jojo.
Eh bien, c'est allé très vite. Eh bien, que dire des choix des thèmes proposés par cette sympathique réunion de monomaniaques cinéma fort, si ce n'est que c'est courageux. Oui, courageux de faire une thématique sur le court-métrage, sans crainte les alertes au feu de la banalité et les blancs radiophoniques. Non, parce que, chers consoeurs, confrères et cons tout court, le court n'est pas un sujet, un thème ou une problématique. Le court, ce n'est rien de tout ça. C'est beaucoup plus... C'est quelque chose qu'il y a à l'intérieur. Votre petit cœur qui bat, le souffle du relâchement, enfin bien installé dans votre bain. C'est une phrase qui marque décisivement une vie d'ado recevant dans les coulisses du théâtre les mots d'encouragement de son idole qui monte sur scène. C'est un baiser volé, plus sourire lorsque tu te fais courser par les flics en fin de manif. C'est une baleine qui apparaît à côté de toi lors de ton premier cours de planche à voile. C'est aussi le bus qui ressemble à celui de ton enfance et dans lequel tu montes en Inde pendant ton voyage initiatique de la quarantaine post-burnout où t'as tout plaqué et que tu vois que ton nom est toujours gravé sur la poubelle et que c'est bien celui-là, le bus de ton enfance. Le court-métrage, ce n'est pas un genre, une méthode ou un sujet d'étude. Ce n'est pas non plus les premiers pas ou le film d'école. Non, le court-métrage n'est même pas une chose puisqu'il a tout le panache de s'étendre en un tout hautain qui est simplement le fait d'être. Être le cinéma, l'huile essentielle, prodigieuse. Mais quelle pourrait être l'existence d'un art? Un plumage de plans et de courbes, de rails et de zooms, de son seul et de silence. L'essence, le substrat, l'écume, le point noir. Aïe, putain. Le court, c'est court, alors je vais pas m'éterniser. C'est bien beau de noircir les pages, mais faut savoir les tourner. À paraphraser, j'en finis plus. J'en finis plus, je raccourcis, je te mets en rage, le cours, en cage, à court, mais... Fin.
Putain, bravo Jojo, c'est beau ce que tu dis, tu aimes le court-métrage Jojo.
Oui, mais je sais pas quoi dire la semaine prochaine. Enfin, dans deux semaines, du coup, si j'ai bien compris.
Oui, d'accord.
J'ai le temps d'y réfléchir.
Voilà, j'ai le temps d'y réfléchir.
Faut que tu reprennes le train.
Faut que je me guérisse, surtout, de la grippe. Bon. J'aurais pas la même voix, je pense.
Parce que Clap, c'est l'émission qui refait de la grippe.
Oui, ouais. Voilà, c'est ça. Grâce à ces petites mousses autour du micro.
Bah, merci beaucoup, Jojo. C'était trop cool. Ouais, c'était trop cool. Merci. Bon, la suite de cette émission, en gros, ce qu'on a envie de faire aussi, c'est de vous parler un petit peu de ce qui se passe à Toulouse culturellement là, dans le mois de novembre. Vous donner un petit peu des petites pistes. Quand vous braverez le froid et que vous oserez sortir de chez vous, et ben on vous dit où vous pouvez aller si vous avez envie d'un peu de cinéma. Du coup, on a trois choses à vous dire. Enfin, il y a trois événements qui se passent sur Toulouse là, ce mois de novembre. Et on va vous en parler un peu. Il y a le mois du documentaire qui est à Toulouse, mais pas que. Pour tout le mois de novembre, Marie, le mois du documentaire, c'est quoi? Parce que moi, je ne sais pas.
Alors, c'est partout en France, dans des lieux éducatifs, socioculturels. C'est-à-dire que même les médiathèques et les bibliothèques peuvent s'approprier cette expérience-là, cette mise en place de ce festival-là. Sachant que le but, en fait, c'est de promouvoir le documentaire de création. C'est-à-dire le documentaire par des réas qui ont vraiment envie de faire du documentaire pour le cinéma. C'est-à-dire du documentaire qui ne passe très rarement à la télévision et dans les salles de cinéma et un peu plus en festival. Donc c'est très important le mois du documentaire en fait. Donc on est très contents que ça existe. Merci beaucoup.
D'accord, donc ça c'est le mois. Donc vous retrouverez Marie au mois du documentaire parce que c'est sûr qu'elle va y aller.
Et j'ai oublié de dire que d'ailleurs, c'est, du coup, la programmation est faite par les gens du lieu qui choisissent de participer à l'événement. C'est pour ça que du coup, c'est une programmation hyper éclectique et qu'on peut trouver plein de choses qu'on ne peut pas voir ailleurs.
D'accord. Et du coup, c'est tout le mois de novembre. Et si vous voulez aller voir les programmations, les lieux et tout ça, il faut aller sur le site qui est moisdudoc.com. Voilà, c'est tout simple. Ensuite, fin novembre, il va y avoir le festival Séquence Court. Peut-être, Hugo, tu peux nous parler un peu, nous dire ce que c'est Séquence Court, vu en rapide. Vu que tu es un infiltré, juste je donne les dates avant. Le Séquence Court, ça se passera du 21 au 25 novembre. Voilà, et c'est des copains de Kaleidos Film, on aime beaucoup Séquence. Et du coup, on vous encourage à aller à leur festival, qui est...
Qui est du 21 au 25 novembre et qui est dans plusieurs lieux, plusieurs cinémas à Toulouse, mais majoritairement à l'ABC. Et Séquence Court-Métrage, c'est un festival de court-métrage qui diffuse des courts-métrages j'ai pas du tout préparé ça.
C'est
moi.
Quoi le thème de la saut là déjà? Le court-métrage.
Oui, c'est le court-métrage quand même. Non, alors il y a plein de. J'ai pas du tout préparé ça. J'en ai aucune idée. Je sais pas comment le résumer, mais il y a plusieurs. Voilà, alors il y a une compétition internationale avec, du coup, je suppose, un prix qui va être sûrement donné, peut-être. Je sais qu'il y a. En fait, je connais tous les films et toutes les différentes catégories, mais je sais pas trop.
Ils sont bien les films, parce que toi tu les as.
Les films ils sont bien, okay. Mais surtout il y a des chances qu'on ait peut-être bientôt, mais sûrement après le festival, des gens du festival qui viendront nous en parler à Clap. Donc voilà, vous pouvez aller au festival et après savoir ce que c'est dans Clap, qui a toujours un train d'avance.
Bon, et puis si vous voulez plus d'infos, de toute façon, et ben vous allez sur le site internet de Séquence Court. Je rappelle juste les dates encore une fois, c'est du 21 au 25 et c'est vachement bien. Et voilà, allez-y. Et enfin, le dernier truc dont on voulait parler, c'est le festival qui se passe à la Cinémathèque de Toulouse, qui est Histoire de cinéma chapitre 2. Et c'est un festival qui va durer du 1er novembre au 14 décembre. Peut-être Marie aussi, tu peux nous dire un peu.
Du coup, c'est un festival que la Cinémathèque de Toulouse a débuté l'an dernier. Donc, ils sont encore un peu en tâtonnement. Peut-être que s'ils nous écoutent, ils ne seraient pas du tout contents que je dise ça. Mais en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils invitent différents acteurs du monde du cinéma d'aujourd'hui. Donc, l'an dernier, il y avait... pas une chef-op, Caroline Champetier, que nous on a interviewé pour Clap parce qu'on est trop stylé. Et après, il y avait des réalisateurs aussi. Et en gros, le but, c'est que les réas viennent et ils font une sélection de films. Et à travers ces films-là qui les ont touchés, bon, souvent, c'est des films qu'ils ont soit réalisés, soit auxquels ils ont participé. Mais à travers cette sélection-là, ils peuvent nous parler du cinéma d'aujourd'hui et l'évolution qu'ils en ont vue et qu'est-ce qu'ils aiment et tout ça. Enfin, là, j'ai pas les noms des invités de cette année parce que je suis dans la team Hugo niveau prépa. Mais l'an dernier, c'était cool.
Voilà, bon, bah, du coup, ça vous fait trois choses à aller voir en novembre. Donc, le mois du documentaire, séquence court-métrage et histoire de cinéma chapitre 2 à la Cinémathèque. Voilà, ça vous fera plein de jolies sorties. Et ben, du coup, on va se quitter comme ça. Et puis, on va juste se remercier tous. Donc, merci Marie, merci Hugo, merci Jojo pour avoir animé. Merci Antoine d'être venu nous parler.
Avec plaisir.
Et de revenir surtout, Antoine, à l'émission prochaine. Merci Aurèle pour la technique. Merci Raph pour l'appart. Et ben voilà, et ben on se retrouve.
Oui, non. Merci beaucoup.
Merci de rien, avec plaisir.
Merci pour l'émission de la rentrée.
You ever been to Hollywood?
All right, let's get some pictures.
I love you.
I think it's about time you heard these recordings.
Allons, silence.
Clap. Le cinéma qui s'écoute.